Et nous retrouvons nos invités, le dessinateur Johan Sfar, qui publie le 7e tome du Chat du Rabbin, La Tour de Babel-Oued. À vos côtés, Samuel Guilès-Mélac, bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à Sciences Po, membre du Centre de Recherche et de Formation sur le Racisme et l'Antisémitisme. On va essayer de dresser un tableau de la condition aujourd'hui des Juifs de France et de manière journalistique. Nous sommes allés voir comment ceux-ci vivaient dans une banlieue qui est une banlieue pauvre de la région parisienne. Notre reporter Maïwenn Guizou est allée à la rencontre de certains d'entre eux. Elle a tendu son micro.
Je suis à Épinay depuis 68, je fais le compte. Ça fait pas mal de temps. J'ai vu une évolution très nette et de la population et du comportement de la population maghrébine et africaine. Ils ont osé des choses qu'ils n'osaient pas pendant un certain temps. Pour être très honnête, on est toujours méfiant. Il y a toujours quelques petits dérapages, mais ça c'est une réalité.
Votre opinion, Samuel Guilès-Mélac, sur cette situation, qui est une situation qui se décrit de manière complexe, parce que l'antisémitisme, le mot est simple, la chose est extrêmement compliquée, donc il faut user de nuances pour décrire la situation.
Bonjour, alors, oui, utiliser, faire preuve de nuances, certainement, mais c'est vrai que c'est installé une situation... De séries de petites violences quotidiennes que vivent un certain nombre de juifs visibles, donc les juifs religieux ou perçus comme tels, notamment dans un certain nombre de banlieues. Et c'est un phénomène qui s'est installé depuis le début des années 2000, qui a un certain temps fluctué en fonction de l'actualité du conflit israélo-palestinien, avec des violences plus nettes au moment de la guerre de Gaza en 2014. Mais vraisemblablement, il y a une sorte de socle qui ne disparaît pas. Et un phénomène qu'on a observé ces dernières années, c'est notamment maintenant des sortes de migrations internes en Île-de-France avec des communautés juives qui vont quitter certaines banlieues difficiles, on va dire, de la Seine-Saint-Denis et qui vont aller ou dans d'autres zones plus paisibles ou perçues comme telles, ou dans le 17e arrondissement de Paris ou dans Saint-Mandé.
Alors l'une des questions qui est la question la plus complexe est de savoir de quelle nature est cet antisémitisme. Historiquement, on est habitué à avoir en France un antisémitisme de type chrétien, on le qualifiait d'anti-judaïsme. Ensuite, il y a eu l'antisémitisme nazi qui se distinguait de l'antisémitisme chrétien. C'est pour ça que je parlais de nuances tout à l'heure. Et puis, aujourd'hui, on a également l'antisémitisme qui est venu donc de la part de musulmans. Alors, c'est extrêmement compliqué de le quantifier. Il y a néanmoins une étude qui a été faite par la Fondapol sur les violences antisémites en Europe jusqu'en 2015, alors qu'elle vient de paraître. Et cette étude, avec là aussi toutes les réserves qu'il faut formuler sur ce type de travaux, estime qu'il y a à peu près 53% des actes antisémites qui seraient issus d'une personne musulmane extrémiste. Comment on peut appréhender ce type d'étude, Samuel Guilès-Mélac?
Alors l'évaluation des violences antisémites comme des opinions et comme je pense d'autres mouvements de haine, ça fait l'objet de beaucoup de débats, de beaucoup de controverses. Les difficultés qu'on a, c'est aussi comment est-ce qu'on quantifie les dépôts de plaintes, comment est-ce qu'ils sont catégorisés. Ce qui est évident, c'est que l'antisémitisme aujourd'hui, il a une dimension syncrétique. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut très bien y avoir un antisémitisme qui a une dimension ou qui va se réclamer de l'islam ou d'un certain islam, et qui à la fois peut puiser dans des ressorts de l'antisémitisme traditionnel européen. On le voit notamment dans un phénomène qui a eu ces derniers mois, c'est-à-dire des cambriolages à dimension antisémite qui ont lieu en banlieue, où des gens sont visés parce que ils sont juifs ou ils sont perçus comme juifs. Il y a l'idée que s'ils sont juifs, ils ont de l'argent, on va les menacer, et quand on va les menacer ou les insulter, on va au passage dire « vive Daesh ». Donc là, on a un peu tous les éléments qui peuvent se fusionner dans des passages à l'acte violent.
Johan Sfar, une réaction.
Oui, moi j'ai vu un changement avec les meurtres de Mohamed Merah. Avant ça, dans la communauté juive, les gens étaient très prompts à dénoncer les actes antisémites. Dès qu'il y avait une croix gammée quelque part, c'était un scandale national. Depuis, on a vu que c'était incitatif. Le cimetière où repose ma mère a été profané 2 semaines après les meurtres de Mera. Donc on voit aujourd'hui des juifs de France qui d'abord ont honte de dénoncer un acte antisémite et qui ensuite, pour des raisons pratiques, s'efforcent de ne pas le faire pour pas que ça crée... J'ai rencontré des Lubavitch, donc des juifs religieux, qui ont leur grand manteau là, qui m'a dit... Tous les soirs, il est plein de crachats. Et je récuse l'idée que ce serait l'attitude, comme vous dites, d'extrémiste. Non, c'est une paresse intellectuelle générale qui fait que c'est fédérateur. Et c'est assez cool de s'en prendre aux juifs pour ce qu'on va appeler des incivilités. Mais quand on crache sur un monsieur, ça veut dire quoi? Et moi, je vais pas faire le malin à vous inventer des espoirs. Quand le gouvernement annonce un grand plan de lutte contre l'antisémitisme et qu'en fait, il y a 2 personnes qui sont là pour écrire des textes et faire des matchs de foot, j'ai juste la liberté de dire qu'au moins, ils la ferment. Que s'ils ont l'intention de rien faire, parce que je ne vois pas bien ce qu'ils peuvent faire, qu'au moins ils la ferment.
Samuel Guilhes-Mélac, vous êtes d'accord ?
Non, ça me fait pas. Je me rappelle que vous aviez écrit ce texte il y a quelques jours, quelques semaines, je pense que je l'avais lu sur
Sur
Jupop, et je m'étais dit...
Un texte qui disait quoi ?
Un texte qui disait, cette énième initiative gouvernementale, elle ne va rien permettre. Et je me suis dit quelque part... L'État, c'est pas l'État qui va mettre un terme à l'antisémitisme, mais que quelque part, les Juifs, peut-être depuis la Révolution française, d'ailleurs, ils ont toujours cru dans l'État et dans la République, et que quelque part, là, effectivement, ça a rencontré sa limite ces dernières années. Moi, je pense que l'État, il a mis beaucoup pour essayer de protéger les Juifs, c'est-à-dire c'est déployer l'armée, c'est déployer la police, c'est essayer de faire que, dans l'enseignement, à tout niveau, il y ait des formations contre le racisme, contre l'antisémitisme, mais de toute façon, l'État n'est pas en mesure... d'arrêter un certain nombre de dynamiques qu'il y a dans la société et il me semble
c'est pas mon point de vue.
Je pense que l'État est trop faible aujourd'hui. Il est plus assez légitime pour permettre de lutter efficacement contre un mouvement de haine comme ça. Peut interdire un spectacle de Dieudonné, il permettra pas de lutter. On râle pas crête.
Il y avait 8000 personnes pour voir Dieudonné à Marseille il y a 2 jours.
Alors c'est pas mon point de vue pour une raison simple, c'est qu'on a eu un laboratoire il y a plus de 20 ans, c'est le GIA en Algérie et c'est 200 000 morts. Et depuis 30 ans, on laisse en France s'installer un fanatisme qui vient du Golfe, qui a la religion modérée qu'on pratiquait dans le Maghreb, qui était ouverte, a été remplacée par quelque chose qui est complètement financé par les pays du Golfe, et on a encouragé ça, et on a encouragé aussi une espèce de soft power qui passe par les télé par câble, qui passe par des prédicateurs et tout ça. On a toléré ça pendant 30 ans, que des types viennent prêcher la haine des homosexuels, le rabaissement des femmes, la haine des juifs et un mode de vie clanique. Alors après, on peut faire tous les matchs de foot qu'on veut, on a livré pieds et poings liés les citoyens français de religion musulmane à des fanatiques, et 30 ans après, on se réveille. Donc effectivement, je suis un petit peu en colère face au pouvoir public. Mais j'attends pas des matchs de foot, c'est sûr.
Mais il y a quelque chose d'autre dont on parlait tout à l'heure, Johannes Farr, c'est le fait de se rendre compte que quand nous étions petits, le racisme, l'antisémitisme était perçu de manière extrêmement négative par les jeunes. Il y avait SOS Racisme, on en pense qu'on en voulait, mais en tout cas, c'était une manière de considérer que toutes ces formes de haine étaient... Ringarde, aujourd'hui, c'est un peu le contraire. On a l'impression que l'antisémitisme, le racisme n'ont jamais été aussi cool.
Moi, je l'ai vécu pendant mon bref service militaire, qui a duré 3 semaines, pendant lequel je travaillais dans un centre d'aide aux devoirs à Bagnolet. Et j'ai rencontré des gamins originaires du Maghreb et du reste de l'Afrique qui avaient cette idée que les Juifs étaient des immigrés favorisés. Comme s'ils étaient arrivés 2 ans avant eux et qu'ils avaient été favorisés. Et cette idée du 2 poids 2 mesures, tout simplement, par paresse intellectuelle, par manque d'éducation, par manque d'explication, ça a tellement fructifié qu'à mon avis, c'est là-dessus que beaucoup de choses se sont développées.
Samuel Guilhes-Mélac, au sujet du 2 poids 2 mesures.
C'est un discours qu'on entend très souvent de la part de gens qui vont estimer que on parlera plus d'actes antisémites qu'on parlera d'actes anti-musulmans. Il y a quelque chose qui là, c'est cristallisé et un discours qui, dans certains cas, est je pense impossible à casser. Après, moi, ce qui me dérange, c'est effectivement si on ne met la focale plus que sur l'antisémitisme à matrice musulmane. Et je ne fais pas partie du tout de ceux qui ont pu le minimiser, le dénier. Et on a pu voir que même au moment des meurtres commis par Mohamed Merah, il y avait des gens pour dire non, ça n'a rien à voir avec l'islamisme, non, c'est passager, c'est un loup solitaire, etc., etc. Mais il me semble que la France, elle a quand même aussi cette spécificité que être antisémite, ça peut aussi permettre de s'inscrire dans une tradition nationale qui permet de dire être antisémite, c'est être français. Et Alain Soral, je pense, joue énormément là-dessus. Et moi, la dernière
fois... Il faut présenter en quelques mots
Alain Soral. Soral est donc un polémiste qui anime le site Égalité et Réconciliation, qui développe toute une série de discours sur YouTube, qui sont, d'après les statistiques, très regardés, qui constituent comme ça toute une contre-culture. C'est comme ça, d'ailleurs, que s'appelle sa maison d'édition, où ils font d'ailleurs republier des classiques de l'antisémitisme français, comme La France juive de Drummond. Et moi, la dernière fois que j'ai été face à de l'antisémitisme en face, et j'en ai pas eu l'habitude de mon existence en fait, c'était un débat dans un théâtre à Reims, et les gens qui s'exprimaient, qui étaient des jeunes gens, y portaient le discours d'Alain Soral, et ils ne se réclamaient absolument pas de l'islam. Et là je me suis dit, il y a aussi une libération dans oser venir transgresser les codes comme ça un peu de l'Europe démocratique, de venir dire, on est antisémite et on vous le dit en face.
Mais d'ailleurs dans le deux poids, deux mesures, il a souvent été question, Johannes Farr par exemple, de dire, Dieudonné est interdit, et Charlie est autorisé, et même promu par les autorités. Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'attaque?
Il y a une réponse assez simple. En France, on n'a pas le droit de s'en prendre aux gens, on a le droit de s'en prendre aux idées. Donc il est évident que quiconque attaque une ethnie ou des gens est susceptible d'être poursuivi. En revanche, Dieu, à ma connaissance, c'est une idée. La religion, c'est une idée. Donc on a le droit de dire son mot sur la religion. Charlie s'en est jamais pris aux musulmans. Il s'en prend aux fanatiques, aux extrémistes. Donc quand Plenel fait des raccourcis en disant Charlie mène une guerre aux musulmans, il met tout le monde en grave danger. J'avais passé un dîner avec Georges Kiegeman qui avait eu un mot très très triste quand on parlait de l'antijudaïsme, comment dire, littéraire ou français ou traditionnel. Il avait dit, vous savez, l'antisémitisme consiste à détester les juifs exagérément.
Au-delà de ça, lorsqu'on voit toute la polémique sur le deux poids, deux mesures, sur la manière dont les juifs seraient devenus aujourd'hui une minorité qui serait une minorité favorisée, il y a une évolution sensible du statut des juifs en France. Si on considère par exemple le XXe siècle, avant-guerre, les juifs étaient perçus comme étant véritablement la minorité dont on ne voulait pas. Et puis, retournement, pas seulement en France, d'ailleurs aux États-Unis, il y a aujourd'hui la sensation que les Juifs sont considérés comme étant des Blancs comme les autres, je veux dire par là, qu'ils ne sont plus stigmatisés.
Alors, des Blancs comme les autres, je pense que c'est vrai par certains aspects, c'est-à-dire que si on considère la question du racisme uniquement sous l'angle des difficultés à accéder à un logement, des difficultés à accéder à un emploi ou de la perception dans l'espace public. Je pense alors qu'effectivement les Juifs sont pas perçus comme une minorité puisqu'ils sont pas une minorité visible comme le seraient par exemple des personnes noires ou arabes, et parce qu'il est considéré que finalement ils sont intégrés, ils sont insérés, et que par certaines organisations comme le CRIF, ils sont proches des pouvoirs publics. Et ce qui se passe, c'est qu'il peut très bien y avoir des dynamiques très contraires dans la société, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une grande majorité de la société française qui estime que les Juifs sont des Français comme les autres, que les Juifs doivent être protégés comme les autres, qu'ils doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, et en même temps des dynamiques d'hostilité qui sont extrêmement fortes. Donc vous pouvez avoir une majorité de Français qui n'ont rien contre les Juifs, vous pouvez avoir le Premier ministre et le Président de la République qui vont au dîner du CRIF, et en même temps des dynamiques hostiles, surtout de passage à l'acte. Et moi je pense que c'est ça la différence majeure avec les années 90, c'est qu'on n'est pas juste dans le débat d'idées, dans les polémiques, mais on est dans un pays où, ces dernières années, on a attaqué les Juifs et on les a tués.
N'est-ce pas contradictoire de vouloir un État laïque et d'aller au dîner du CRIF?
Mais il faut le demander aux personnalités politiques qui s'y rendent. Elles diront, et c'est ce que dira aussi le CRIF, que le CRIF se veut la voie politique du monde juif organisé et pas la voie religieuse. Moi, si j'aurais un reproche à faire aux dirigeants politiques dans leur relation avec le CRIF, c'est de ne jamais expliquer ce qu'ils font. Et de dire, bah, effectivement, la France, elle est laïque au sens où l'État est neutre, mais on peut avoir des relations avec des dirigeants communautaires sans nécessairement en faire des chefs de tribu.
Johannes Farr.
Moi, je crois que les antisémites ont énormément de chance qu'il y ait le dîner du CRIF, parce que grâce à ça, ils peuvent fantasmer sur le lobby juif une fois par an. La réalité, c'est que le CRIF a été créé après-guerre, parce que les juifs de France avaient le sentiment que le consistoire les avait peu protégés contre l'occupant nazi, et ils ont voulu un truc pour dire tout ce qu'ils voulaient. À mes yeux, le CRIF, c'est un dîner de personnes âgées une fois par an qui sert absolument à rien, sauf à faire plaisir à Dieudonné et Alain Soral quand ils en parlent.
Mais vous vous sentez représenté par le CRIF, Johannes
Farr? Absolument pas. Absolument pas. À mes yeux, il n'y a pas de clergé juif, pas plus qu'il y a de clergé musulman. Personne n'a le droit de parler au nom des juifs. Et moi, je milite pour un non-événement religieux. Pour moi, l'identité religieuse devrait être un des aspects parmi d'autres. Et les représentants du culte devraient être là pour organiser les enterrements, la nourriture, les fêtes, je ne sais pas. Mais ce qui est, quand j'étais pas d'accord quand j'étais enfant et quand je lisais Sartre qui disait c'est l'antisémite qui fait le juif. Mais aujourd'hui, c'est devenu vrai. Aujourd'hui, il y a des assignations identitaires et religieuses permanentes. Bon, moi, je l'ai demandé, je fais le chat du rabbin. Mais il y a des gens qui ont rien fait de mal, comme disait Raymond Barre, des victimes innocentes. Et on est rappelé à ça en permanence. Et on est tellement écrasé par cette vague qui, pour moi, ne relève pas du fanatisme, mais relève vraiment de la paresse intellectuelle. Il y a un bouillon consensuel de vacherie ou de suspicion que les réseaux sociaux entretiennent, parce que c'est le lieu du fantasme sur tout ça. Oui, ça me paraît très préoccupant.
Samuel Guilhes-Mella, qui n'est peut-être pas inutile de rappeler d'ailleurs ce qu'est le CRIF. Je crois que vous êtes l'un des seuls en France à le savoir, en dehors des membres du CRIF.
Alors, le CRIF est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Quand il est créé, au début, il est le Conseil représentatif des Israélites de France. C'est pour ça qu'il n'y a pas le J. C'est donc l'organisation qui dit vouloir fédérer le plus d'associations juives, associations politiques, culturelles. Et c'est une structure qui, depuis le début des années 80, notamment avec Théo Klein et le début du dîner du CRIF qu'il lance en 1985, a acquis une visibilité particulièrement forte.
C'est... Là aussi, c'est un peu étrange, parce qu'on peut se demander dans quelle mesure... effectivement, il faudrait poser la question aux hommes politiques qui vont au dîner du CRIF, de savoir pourquoi ils vont au dîner du CRIF. Parce qu'il y a d'autres organisations juives, des organisations laïques juives, bref, d'autres lieux où ils pourraient aller. Pourquoi le CRIF a-t-il été choisi parmi les autres institutions pour faire ce dîner où les politiques vont ?
Bon, ensuite, d'abord, que ça nous plaise ou non, le CRIF fédère le plus d'associations juives. Donc il peut effectivement se proclamer le fait qu'il parle au nom d'une certaine communauté juive organisée. Il y a des religieux, il y a des laïcs, il y a de la droite, il y a de la gauche. Il y a plus de droite qu'avant, il y a moins de gauche qu'avant. Ça, c'est particulièrement net. Mais le CRIF, sur toute une série de sujets dans les années 80-90, c'est pour ça que, sans avoir un avis si c'est bien ou pas, ils ont joué un rôle sur, ça peut être l'affaire du Carmel d'Auschwitz, ça peut être tout ce qui a été lié à la mémoire de la Shoah.
L'affaire du Carmel d'Auschwitz, pour la rappeler en quelques mots.
En quelques mots, c'est l'installation de bonnes sœurs polonaises à Auschwitz dans les années 80. Et il y a ensuite un scandale et une négociation entre les organisations juives et l'Église catholique. Et le CRIF a notamment joué un rôle dans cette négociation. Donc, de fait, il y a bien des situations où des porte-paroles peuvent avoir une utilité sociale. Que les personnalités politiques, elles rencontrent le CRIF, je ne sais pas si en soi c'est problématique. Elles peuvent rencontrer des représentants qui, de toute façon, seront toujours considérés comme imparfaits. En plus, on est dans une société où, que ce soit le syndicalisme, les représentants religieux ou autres, on va tous les trouver imparfaits. La représentation, elle est devenue très difficile. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils rencontrent le CRIF sans exposer les désaccords qu'ils peuvent avoir avec le CRIF.
On écoute un autre témoignage parmi donc ces fidèles de la communauté juive d'Épinay-sur-Seine.
Merci. Chez moi, je porte la kippa. Par contre, la porter à l'extérieur, ça me met très mal à l'aise parce que je me sens tout d'un coup vraiment étranger. On se sent tout de suite regardé et on se sent tout de suite mal à l'aise. Et j'ai clairement peur de l'acte antisémite. Ceux-là même qui sont en fait plus pratiquants que moi. Même ceux-là en fait qui mettaient la kippa, bah maintenant au lieu de mettre la kippa, ils mettent une casquette.
Et ça, c'est, disons, un avis quasi général parmi les personnes que Mayouen Guizhou a interrogées. Johann Sfar, vous n'avez pas de kippa, mais vous avez en quelque sorte une kippa intégrée. C'est pour ça que quand vous parlez de non-événements juifs, malheureusement, je dirais que vous incarnez un événement, puisque vous n'écrivez pas que là-dessus, vous ne dessinez pas que là-dessus, mais ça occupe quand même une part importante dans votre œuvre. Désolé de vous le faire remarquer.
Ah ouais, parce que moi, ça me passionne. Moi j'ai une passion pour les frictions entre l'universalisme juif et l'universalisme français. C'est tout ce qui fonde mon travail. Je tiens à rappeler qu'aucun commandement juif n'impose de porter une kippa. On demande aux juifs religieux de porter un chapeau pour se rappeler qu'il y a Dieu au-dessus d'eux, mais aucun juif n'a un déguisement imposé. Les tenues les plus remarquables viennent de groupements ultra-religieux pour des raisons historiques, mais pas à cause de commandements. Ceci dit, c'est quand même dommage qu'ils aient pas le droit de sortir dans la rue parce qu'ils ont peur d'agression. C'est le choix de chacun de s'habiller comme ça. Et c'est vrai que constituer une cible vivante uniquement parce qu'on porte une kippa, c'est quand même terrible.
Les frictions entre l'universalisme juif et l'universalisme français, elles ont produit un certain nombre de penseurs, lesquels ont pensé la République. Je songe évidemment à Émile Durkheim, dont on a fêté le centenaire de la mort il y a quelques jours dans l'indifférence à peu près générale, Samuel Guilhes-Meillac. Si l'on essaye de songer maintenant à l'avenir de la communauté juive française, à savoir en fait ce que vont devenir ces individus, est-ce qu'ils vont demeurer en tant que juifs, est-ce qu'ils vont s'intégrer, est-ce que vous avez une opinion à ce sujet.
Alors j'ai une opinion, je ne suis pas sûr de pouvoir prédire évidemment l'avenir. Les dynamiques qu'on a observées ces dernières années, c'est quand même le renforcement du lien avec Israël pour beaucoup de juifs, et le renforcement très concret, c'est-à-dire que ces dernières années, il y a eu un nombre important, plusieurs milliers par an, de Français juifs qui sont partis vivre en Israël. Donc ça fait qu'il y a aussi toute une série de réseaux, de relations familiales, amicales, professionnelles, culturelles, qui sont très fortes entre eux, juifs en France, juifs en Israël, et avec un système qui permet à des gens des fois de vivre quelques mois là-bas, quelques fois ici. Donc cette dimension, elle est là quelque part avec l'idée que l'universalisme français n'est plus la solution pour eux, qu'elle ne les protège plus, et donc un certain nombre de gens qui diront qu'ils partent vivre en Israël parce qu'ils estiment que leur avenir est là-bas. Et on avait observé en même temps le renforcement d'un discours qui était un peu celui des Israélites français au 19e siècle, en réutilisant ce vocabulaire qui avait été un peu réinstallé par Manuel Valls et François Hollande vers 2014-2015, à la suite d'un certain nombre d'attentats, et notamment dans le vocabulaire, en parlant des Français juifs. Et on voyait que là, il y avait une revolonté de réinscrire les Juifs dans le corps national français.
Qu'est-ce que vous en pensez, Johann Sfar?
Moi, je pense qu'étant né ici, je suis l'héritier de familles qui ont choisi de ne pas aller en Israël quand l'État d'Israël a été créé. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de famille là-bas, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'affection pour eux, mais c'est un choix noble qui a mené beaucoup de gens à la mort. Mais c'est le choix du vivre ensemble. Et quand le Bund a été créé, il était créé en réaction à ces envies de départ. Le Bund a été créé pour que des Juifs restent en Europe et existent en Europe comme une voix de la polyphonie européenne.
Le Bund, juste pour rappeler,
c'est un mouvement juif ouvrier du début du XXe siècle, qui croyait à une voix juive dans la polyphonie des nations européennes, de la même manière que les Russes considèrent comme diverses nations ceux qui vivent sur leur sol. Je crois qu'il y a une vraie noblesse et tellement l'ont payé de leur vie que terminer ça par quitter l'Europe, ce serait un échec terrible pour moi.
Mais dans le même temps, vous êtes aussi, Johann Sfar, l'une des dernières générations, sinon la dernière, à avoir approché l'identité judéo-arabe. Vous êtes moitié ashkénaze, moitié séfarade, je crois, autrement dit, moitié issu de juifs originaires de l'Est et moitié issu de juifs originaires du Maroc, de l'Algérie, vous de l'Algérie. Lorsqu'il y a cette situation-là, on voit que finalement, on assiste malheureusement à la mort des derniers juifs parlant arabe, des derniers juifs parlant yiddish.
Oui. C'est ça qui fait peur aussi, c'est la disparition des intellectuels juifs. C'est-à-dire que les voix juives qu'ils invitent dans le débat aujourd'hui sont de plus en plus à droite, sont de plus en plus réactionnaires, prônent de plus en plus la peur et tout ça. Moi, je suis très embêté parce que je veux pas nier le réel. Tout ce qu'on a dit ce matin, c'est vrai. Je voudrais en sortir quelque chose dans lequel il y a de l'espoir, dans lequel il y a une main tendue et dans lequel il y a un avenir en Europe pour ceux qui sont nés en Europe. J'ai pas les réponses. Quand je dessine mon petit chat, c'est comme s'il nous disait à tous « je vous regarde faire ». Je crois que l'Algérie est un laboratoire et un souvenir passionnant pour penser à notre avenir.
La réalité, c'est une notion également complexe, également en matière d'antisémitisme d'ailleurs, parce que si on prend l'antisémitisme sur le temps long en France, à la fois des juifs sont présents sur le territoire national depuis très longtemps, on vient de retrouver un bain rituel, un mikvé dans la Drôme à Saint-Paul-des-Trois-Châteaux, un mikvé du 15e je crois, du 15e siècle, on voit que la notion de coexistence entre juifs et chrétiens en France, aujourd'hui entre juifs, chrétiens et musulmans, là aussi ça n'est pas une histoire simple, Samuel Guilasmé.
Ah non, c'est pas une histoire simple, et je pense que ça a été profondément lié aussi à la condition historique de la France. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la question c'était comment est-ce que la France catholique est organisée en tant que telle, d'un point de vue d'État et de société, qu'est-ce qu'elle faisait des juifs? Et la question s'était notamment posée à la Révolution française. Si on leur donne les droits, est-ce qu'ils vont rester une nation à part entière? Est-ce qu'ils vont devenir des Français comme les autres? Et qu'est-ce que ça veut dire de devenir des Français comme les autres? Et tout au long du 19e et du 20e siècle, des populations juives vont chercher justement cette adaptation entre qu'est-ce qu'il faut conserver de son identité et dans quelle mesure il faut embrasser l'identité majoritaire. Et ces questions, je pense qu'elles se posent aussi aujourd'hui pour d'autres minorités, avec des dilemmes qui sont encore plus difficiles vu le contexte, vu le terrorisme djihadiste, vu les conflits internationaux, et aussi une France qui, dans l'ensemble, de toute façon, doute d'elle-même.
Le 7e tome du Chat du Rabbin vient de paraître, Johann Sfar. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un chat qui n'est pas trop optimiste. Le tome 8, il sera plus optimiste?
Non, je crois pas, mais j'espère qu'on va se marrer à chaque dessin. Mais moi, j'aime bien être pessimiste et marrant.
Pourquoi la tour de Babel Oued, d'ailleurs?
Parce que c'est un thème biblique où Dieu a vraiment le mauvais rôle. La tour de Babel, il voit les hommes qui s'entendent bien, qui parlent la même langue, qui construisent un grand... Alors il les maudit, ils parlent tous des langues différentes, et enfin ils n'arrivent plus à construire. Donc on dirait que ça fait plaisir à Dieu que les hommes se disputent. Inquiétante cette parabole.
C'est peut-être effectivement un signe de votre optimisme tempéré. Un mot de conclusion, Samuel Guilles-Mélac. J'ai vu récemment un sondage fait en Israël qui expliquait que les juifs israéliens se sentaient d'abord israéliens et ensuite seulement juifs. Est-ce qu'on peut imaginer finalement que la question juive redevienne une question nationale ? Est-ce que ce pourrait être l'un des avenirs possibles ? On voit que les diasporas juives en Europe ont été décimées. Il reste des juifs, surtout en France, un petit peu en Angleterre, un petit peu en Italie, mais les juiveries d'Europe de l'Est ont été massacrées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aujourd'hui deux pays véritablement où il y a des juifs, les États-Unis et Israël.
Alors ça, c'est une question assez immense, mais il est certain que dans le laboratoire national israélien, je pense que se reconfigure toute une série d'identités, et la vie politique israélienne ne rend pas très optimiste, de mon point de vue, la politique ou pas de chercheur, elle rend pas très optimiste, mais on voit quand même un certain nombre de dynamiques culturelles, de dialogues qui peuvent se faire, notamment avec les Arabes israéliens, de retour aussi chez les Israéliens à un intérêt, des fois pour le Yiddish ou pour d'autres langues qu'on présentait comme perdu de la diaspora. Donc je pense qu'il y a, des dynamiques nouvelles qui sont intéressantes en Israël, mais ce qui est toujours assez fascinant et un peu déprimant pour ce qui concerne Israël, c'est la vivacité intellectuelle et culturelle, et politiquement la stagnation, voire la régression.
Vous restez avec nous, Samuel Guilles-Mélac et Johann Sfar, avec votre chat du rabbin, le septième,